Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbe à enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rute. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu, je n'ai pas regretté.
Je sais pas si on m'entend là.
L'équipe, mais si, carrément, l'équipe d'imaginaire assez réduite hein, dans ouais, le studio du 101.5. On n'est que deux, mais on sera plus parce qu'on va s'écouter l'interview de Marion Montaigne par Romald, enregistrée aux dernières Utopiales, où elle venait faire la promotion du sixième tome de Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Il y avait Nos Mondes Perdus aussi qui était sorti l'année dernière et tout. Et donc, avec Seb, comme on avait été voir le dernier Godzilla, qui était pas mal à l'honneur d'ailleurs, aussi c'était son anniv, hein, on vient de fêter ses 70 ans à Godzilla. Ces derniers temps, on s'est dit, tiens, on va faire une émission spéciale dinosaures.
Ouais.
Et Sébastien devait nous parler de
dinosaures.
Temps et le monde perdu aussi, livre-jeu de Jonathan Green. Il est malade, donc ce sera pour notre prochaine.
C'est pas une excuse quand même.
On va s'écouter quand même l'interview de Marion Montaigne. Mais toi, finalement, Patrice, tu le remplaces au pied levé et tu vas pas du tout nous parler
de
dinosaures.
Absolument pas. Je vais vous parler de roman policier qui peut se rapprocher du roman policier, on va dire hein, quand même, que j'ai lu cet été et que j'ai trouvé très bien.
Donc,
dirai plus tout à l'heure.
Les quatre polars de l'été.
Enfin, quatre parmi ceux qui sont sortis. Hein.
Ok. Mais quatre que tu as appréciés. Et ben moi je vais vous commencer à vous parler de Primal, puisqu'on parle dinosaures, et on commence par s'écouter un extrait de la BO par Tyler Bates et Joan Higginbotham. extrait donc de la BO de la série animée Primal, en version française. Ça s'appelle L'Ancécro, puisque les deux personnages principaux de cette histoire donc s'appellent Spear and Fang. En version originale, Patrice, est-ce que tu sais à quoi ça fait référence, Spear and Fang?
Non, absolument pas.
On vous laisse chercher sur le chat, si vous voulez, vous pouvez nous trouver la réponse. Sachant quand même que le réalisateur de cette série, enfin le monsieur qui a l'initiative de tout ça, Jendy Tartakovsky, avait fait un petit court-métrage d'animation dans les années 90 qui s'appelait... j'ai perdu le nom. Un Candat the Barbarian ou quelque chose comme ça, qui était un genre de pastiche de Conan, un pilote d'une série qui n'a jamais vu le jour. Après, ce monsieur, il a travaillé sur... Dexter, le laboratoire de Dexter, je sais pas si t'as vu ça, c'est, il a toujours sorti des trucs chez Cartoon Network. Après, il a travaillé sur les Super Nanas. Et puis aussi, Star Wars, Clone Wars. Et là, série vraiment particulière, Primal, que moi j'ai vu sur Toonami. Au fin fond des chaînes télé de ma box. Je crois que ça n'existe plus ou c'est un autre nom. Série animée pour adultes, hein. Il n'y avait pas un épisode qui passait avant 23h, qui porte bien son nom. C'est vraiment primal. Ça commence donc avec la rencontre d'un homme des cavernes et d'une femelle tyrannosaure, je dirais, un genre de petit tyrannosaure. Donc c'est une série sans dialogue, hein, et qui se transforme un peu en buddy movie, parce qu'ils perdent tous les deux leur famille dans le premier épisode, et ils partent un peu comme ça... À volo, je dirais, à l'aventure, avec une première saison de 10 épisodes, un peu, comment dirais, Monster of the Week, quand même. Dans chaque épisode, ils vont croiser des créatures de plus en plus monstrueuses. Donc, Jendy Tartakovsky, il s'est fait plaisir quand même. Donc là, déjà, là, les personnages principaux sont un homme des cavernes et un tyrannosaure. Donc, on voit dès le début quand même qu'on n'est pas dans une représentation... scientifique, hein, de la préhistoire, vous l'aurez compris. On vient de s'écouter le morceau March of the Mastodons, qui fait référence à un troupeau de mammouths. Voilà, on parlera en fin d'émission avec Marion Montaigne un peu de véracité scientifique dans la culture pop. Voilà, que dire, donc deux saisons de 10 épisodes de 20 et quelques minutes chacune, quand même, avec à déconseiller aux âmes sensibles, quand même, c'est quand même ultra, ultra violent. C'est probablement le truc le plus violent que j'ai jamais vu à la télé, moi, je crois. Il y a un body count vraiment impressionnant, c'est hyper gore. Quand il y a des scènes d'action, ça explose de partout. Et notamment, si vous êtes sensible à la violence faite aux animaux, évitez cette série, parce qu'il y a une tribu de chacals, une meute de chacals plutôt, qui se fait complètement décimer, une tribu de singes aussi, c'est pareil.
Et les tyrannosaures aussi.
Alors les deux personnages sont vraiment deviennent complètement berserques des fois dans cette série. Ils laissent ressortir leurs instincts primaires et il y a des longues scènes de violence. Il y a notamment un épisode de la première saison avec une course-poursuite qui dure 15 minutes. Entre nos deux personnages, ils sont poursuivis par un brontosaure, on va dire, mais brontosaure zombie, qui devient donc complètement berserk aussi. Les brontosaures, en fait, mangent des fruits qui les transforment en bêtes ultra violentes. Et donc, on a des choses assez incroyables comme ça. Moi, j'avais jamais vu ça à la télé. La deuxième saison devient... Ça part vers autre chose aussi. On croise des civilisations et on se rend compte finalement que l'Ancécro vivait un peu dans un monde perdu par rapport à le reste de leur monde, où on croise des civilisations plus... proche de l'Antiquité. Voilà, donc ça doit plus trop passer à la télé, mais c'est trouvable, chaque saison est sortie en DVD. Et puis donc, il y aura peut-être une troisième saison, mais qui partira sur des choses très très différentes, comme un épisode de la deuxième saison, qui n'a rien à voir avec le reste de la série, où on voit Charles Darwin, pendant tout un épisode, il est dans un manoir anglais, il doit affronter un homme singe aussi, ultra violent. Voilà, voilà. Bon, Patrice, toi, t'es pas venu nous parler dinosaures. T'es pas venu nous parler de ton nouveau livre. Parce qu'il y a quand même un genre de dinosaure en couverture.
C'est vrai que dans mon livre, il y a un dinosaure en couverture, mais comme c'est Sébastien qui devait...
On en parlera aussi dans voilà. Deux semaines. Donc,
là, nous passons
au polar de l'été. Voilà.
Dans un instant, ils la trouveront. Flottant dans l'eau marbrée, les doigts écartés, les cheveux déployés comme un éventail japonais. Les carpes glissant sous elle, les fleurant, longeant les contours de son corps. Le filtre bourdonnant, le bassin frémissant, scintillant, elle, tremblante à la surface. Le brouillard qui nappait le sol plus tôt dans la matinée, ce fameux brouillard de San Francisco, épais, froid, à couper au couteau, finit de se dissiper au soleil. La cour est baignée d'une lumière qui illumine les pavés, le cadran solaire, le parterre de jonquilles. Et le bassin, cercle parfait creusé près du mur de la maison, irisé de poissons luisants et de nénuphars pareils à des étoiles. Dans un instant, un cri fendra l'air. C'est ainsi que commence le roman de A.J. Finn, prononce peut-être A.J. Finn, Fin de l'histoire, paru aux Presses de la Cité. Alors, on voit tout de suite à cette introduction qu'on a un cadavre sur les bras. Donc, c'est pour ça que je classe, et d'ailleurs la lecture ne m'en a pas dissuadé, ce roman dans la catégorie des romans policiers. Mais c'est très atypique. On va découvrir donc un écrivain qui, dont la fin est proche. Il sait qu'il va mourir dans 3 mois. Et cet écrivain est un écrivain de polar à succès. Il a un héros récurrent, voilà. Et il demande à une jeune fille avec qui il a eu des contacts par Internet, parce que c'est une fan de ses romans, de venir écrire sa biographie. Alors comme ça paraît un peu anodin, mais il faut savoir que dans le passé de cet écrivain, 10 ans auparavant, sa femme et son fils ont disparu. Et ils n'ont jamais été retrouvés. Donc évidemment, les suppositions les plus folles se sont déroulées. On pense que c'est lui qui les a tués, etc. Enfin bon, on ne parle pas d'extraterrestres, mais à la limite, on aurait pu aussi. Toujours est-il que la fille qui vient faire cette biographie se dit en elle-même que peut-être, elle va pouvoir avoir des éléments supplémentaires pour résoudre ce mystère. Et donc on va trouver, c'est pas un huis clos à l'Agatha Christie comme dans les Dix Petits Nègres, parce qu'on va se retrouver dans cette maison de San Francisco, avec des tas de personnes qui tournent autour, dedans et dehors, etc. Et on déroule, c'est un roman qui est assez long, hein. on va petit à petit découvrir, évidemment avec des flashbacks, le passé de cet écrivain, vu à travers les yeux de la jeune fille, etc. Et tout. C'est très très bien ficelé, et je dois vous dire, bien entendu, je ne vous révélerai pas la fin, qui pour au moins une fois, je peux dire, c'est vraiment une surprise que j'avais pas du tout vu venir. Petit à petit, forcément, dans l'histoire, on apprend des choses, on découvre des choses, donc on commence un peu à cerner ce qui va se passer, mais vraiment, le twist final, il est très original. Donc voilà, ça c'est le premier dont je voulais vous parler. Le deuxième, Jeune fille à la volière, de F. Chase. Alors le point commun, je fais une petite parenthèse, le point commun que j'ai vu à travers ces 4 livres dont je vous parlais, c'est qu'il y a toujours un mystère dans le passé de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Donc là j'en ai parlé dans le premier. Dans Jeune fille à la volière, là encore on va trouver un artiste peintre, donc là on est encore dans le monde, alors c'est plus l'écriture, c'est la peinture, qui a eu 3 filles avec 3 femmes différentes. Donc c'est un gars qui il amuse pas le terrain. Et ces 3 filles ont évolué de manière extrêmement différente. Une qui est plutôt réservée, l'autre qui a réussi dans la finance. Voilà. Bon. Et on va voir l'histoire à travers les yeux de ces 3 filles. Ça m'a un petit peu déstabilisé au départ, mais heureusement, les têtes de chapitre sont nommées avec les prénoms des filles, et donc on sait de quel point de vue c'est écrit chaque chapitre. Mais comme c'est un peu la caméra qui tourne autour d'une séquence unique, parfois c'est un peu dur à s'y retrouver, mais ça passe très bien. Et donc cet artiste va inviter ses 3 filles qu'il n'a pas vues depuis un petit moment dans un manoir de Cornouailles pour leur annoncer quelque chose. Bien entendu, je ne vous le dirai pas non plus de quoi il s'agit, pour leur annoncer. Et ces 3 filles qui passaient leurs vacances ensemble plusieurs années auparavant vont donc se retrouver après un certain nombre d'années. Et au fur et à mesure du récit, on va découvrir qu'il s'est passé quelque chose en 1999, lors de l'éclipse totale de soleil qui a traversé l'Europe. Quoi ? Eh bien, c'est à vous de le découvrir au fur et à mesure. Alors là, on a un peu l'ambiance Cornouailles, c'est une petite une maison en Cornouailles, les rochers, les falaises, le vent, le brouillard, enfin, tout pour mettre une bonne ambiance Est-ce que c'est du policier ? Alors là aussi, on a un cadavre sur les bras, tout un noyé au début, donc. Mais il faudra attendre jusqu'à la fin du livre pour savoir à quoi ça se raccroche.
Alors, ambiance à la Daphné du Maurier, alors.
Un petit peu, peut-être. Donc ça, voilà, c'est assez passionnant. Et puis surtout à travers la. Alors, j'ai pas le temps de tout décrire, mais travers aussi la personnalité de ce peintre, et puis la manière dont il peignait à l'époque, Jeune fille à la volière, en fait, c'est le titre français, The Birdcage en anglais, et qui est en fait le titre d'une peinture qu'il a faite avec ses filles.
Ok.
Voilà. Le suivant a été écrit par un Français qui s'appelle Jérôme Loubry, ça s'appelle L'île. Alors, l'île dont il s'agit, c'est Porquerolles. Porquerolles, donc, une île en Méditerranée, du côté de Hyères, Toulon, voilà, c'est ça, Hyères, ouais. Toulon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle l'île, bien sûr, parce que ça se passe sur l'île de Porquerolles, mais aussi parce que l'île est un personnage. Et là encore, on va avoir un mystère qui prend sa source dans le passé, c'est un disquaire qui est sur le port, par une nuit de tempête, il aperçoit une personne qui semble s'approcher de sa boutique sous la pluie, et elle s'effondre, et quand il va la voir, en fait, elle est morte. Et il se dit, mais cette personne, il y a déjà 5 ans qu'elle s'est suicidée.
Oula.
Mystère.
Effectivement.
C'est comme ça que débute le livre, donc encore un mystère avec qu'est-ce qui a pu se passer il y a 5 ans, qui racontait effectivement, on va avoir des flashbacks avec 3 jeunes qui se retrouvaient fréquemment dans une maison de Lille, etc. Ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que Lille, effectivement, est un personnage, et les vrais habitants de Lille, on ne parle pas des touristes qui viennent simplement, on voit très nettement la différence et aussi l'état d'esprit des habitants vis-à-vis des touristes, c'est très bien ficelé de ce côté-là, mais les habitants, quand ils parlent de l'île, par exemple, s'il y a un orage, une tempête, c'est l'île qui est en colère. Et donc, ils ramènent tout à l'île et à sa personnalité. Mmh. Et là encore, on va découvrir des trucs qui sont assez alambiqués, je dirais, dans le scénario, qui se découvrent au fur et à mesure avec des rebondissements assez inattendus. Le dernier, l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. Alors, ça commence pas du tout comme un roman policier, mais on raconte l'histoire d'une jeune femme qui est spécialiste des objets d'art, et experte, quoi, et qui est invitée par un collectionneur pour aller expertiser certaines choses dans sa maison. En fait, il ne s'agit pas du collectionneur, mais de son fils, qui veut lui faire enquêter sur la disparition de son père. Alors déjà, ça, c'est un peu étrange. Alors, le fils explique que tous les ans, son père se réunit avec 3 amis sur un thème donné, et chacun doit apporter un objet rare en liaison avec ce thème. Alors, pour donner un peu la personnalité du collectionneur qui a disparu, on peut trouver dans sa maison le fauteuil de la Comédie française sur lequel Molière est mort, l'escarpin de Marie-Antoinette quand elle l'a perdu en montant sur l'échafaud, des trucs comme ça, quoi. Donc, c'est du lourd, quoi. Comme on dit, c'est du lourd, quoi. Et donc, tous les ans, ils se réunissent pour ce sorte de concours. Et cette année, ils se sont réunis et ils ont tous disparu. On ne sait pas où. Les 4, donc le père et les 3 amis, ont disparu. Ce qu'il reste, c'est 3 objets. Donc, apparemment, il en manque un. Il reste un marteau, un casque audio et un morceau de caillou. Et apparemment, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc là, on va rentrer à la fois dans un mystère un peu historique, parce que l'auteur connaît bien les thèmes liés à l'histoire, mais en même temps, un thriller, parce que rapidement, la jeune fille et un comparse qui est un ancien prêtre. Enfin, un ancien policier devenu prêtre et qui l'assiste dans son enquête vont être rapidement poursuivis par des gens, des tueurs, etc. Donc il y a aussi un suspense qui est bien ficelé. Et pour terminer, je dirais, sans rien dévoiler de particulier, que il y a des réflexions qui s'apparenteraient un peu à la science-fiction. Donc voilà, j'en ai dit suffisamment pour vous donner envie de lire l'un ou les 4, mais j'ai pas été déçu sur ces lectures.
Ok, bah des livres, donc lecture d'été, mais non, qu'on peut aussi
je vais quand même
redonner
ouais, parce que j'ai pas donné les
éditeurs.
Alors, l'ultime avertissement, c'est chez Ixo.
Part de la fin.
Hein, l'ultime avertissement, Nicolas Beuglet, c'est Ixo. L'île de Jérôme Loubry, c'est Calman Lévy-Noir. Jeune fille à la volière de Eve Chase, c'est Robert Laffont. Et fin de l'histoire chez Presse de la Cité de A.J. Finn.
Ok, merci Patrice. Personne n'a répondu à ma question. Moi, d'où vient Spear and Fang, les noms des personnages de Primal? Eh bien, c'est le titre de la première nouvelle de Robert Howard qui a été publiée au début des années 20. Une nouvelle, d'ailleurs, qui se passait pendant la préhistoire. Donc, avant qu'on écoute l'interview de Marion Montaigne que Romuald a enregistré aux Utopiales, eh bien, on va s'écouter un petit peu de Dino Synth. Le Dino Synth, c'est une sous variante du Dungeon Synth. On avait déjà passé le roi du Dino Synth dans cette émission, Diplodocus. Et ben là, on va s'écouter avant l'interview un titre de Synthosaurus. Donc avec un nom comme ça, on sait où on va. C'est un Allemand qui a sorti déjà pas mal d'albums. Et alors, on va s'écouter un extrait de son EP qui était sorti en 2020, Gigantic Throne. Et le titre, c'est The Deccan Traps. Est-ce que tu sais ce que c'est que les Deccan Traps, Patrice?
Absolument. Je suis nul, moi, en musique, moi, tu sais.
Mais non, c'est un endroit en Inde, des coulées de lave, il y a très, très, très longtemps, qui ont formé des... Ce sont des formations rocheuses, en fait.
Un peu comme la chaussée du Géant, un truc comme ça, non?
Et on pense qu'elles ont une partie de responsabilité dans l'extinction des dinosaures. On s'écoute ça tout de suite sur le 100.5 avant l'interview de Marion Montaigne. Thank you.
Imaginaire et puis Radio G sont au Festival des Utopiales, déjà le dernier jour du Festival 2024. Nous avons le grand plaisir de rencontrer Marion Montagne, la dessinatrice et scénariste de bande dessinée. Donc, bonjour Marion.
Bonjour.
Donc, une petite présentation après quelques études en art et industrie graphique et pas forcément dans l'art. Tu as travaillé pour TF1, pour le magazine Délire, Capsule Cosmique. Et puis, vers 2008, tu as créé ton blog Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Et ça t'a permis de te faire connaître du grand public, ou alors tu pouvais parler à la fois de science avec des illustrations très drôles et puis un fond très documenté. Et puis là, c'est le drame. C'est le drame, en fait. D'un seul coup, paf, t'es connu. En 2011, c'est devenu une première BD, Tu mourras moins bête. Et d'ailleurs, tu remportes le prix Angoulême 2013 pour ça. Et puis en 2015, Arte décide d'adapter en dessin animé. Donc on a eu le droit, Tu mourras moins bête en dessin animé, après le 28 minutes de dimanche soir sur Arte, avec la voix de François Morel, hein, quand même. Et puis, dans la combinaison de Thomas Pesquet en 2017, où tu as pu...
Redrame.
Deuxième prix Angoulême, d'accord.
Oui, prix du public.
Ouais, donc ça te met au même niveau que Rony et puis que Loisel, quand même.
Ah, ok.
Ah, ouais.
Ils ont eu deux prix du public.
Ouais.
Ah, bon,
ouais, mais c'était plus, c'est un petit peu plus, parce qu'ils sont moins jeunes que toi.
Oui. Non, mais il y a d'autres prix, il y a des prix du public.
Et puis, l'année dernière, 2013, c'est Nos Mondes Perdus, sous le même format que Thomas Pesquet. Et puis là, tu viens de sortir le sixième tome de Tu mourras moins bête, In Mustachum Veritas.
Que j'ai trouvé en étant au restaurant et en buvant du vin. Le titre. Ouais, c'est ça.
Alors, il y a un avant et un après, Tu mourras moins bête. Ouais. Mais alors, à quoi ressemblait ta vie avant Tu mourras moins bête?
Avant Tu mourras moins bête, le but c'était de faire sa place dans le milieu de l'illustration et de la BD. Et je commençais un peu à la faire, je travaillais beaucoup en... Je faisais surtout des illustrations. C'est vrai que je faisais beaucoup d'illustrations et je me cantonnais pas mal à la jeunesse. Je pense que j'osais pas trop faire vraiment des choses adultes. Ce qui est un peu absurde, hein. C'est pas parce qu'on s'adresse aux enfants que c'est pas sérieux. Au contraire, je pense que c'est difficile. Mais en fait, on avait plus de... La presse jeunesse embauche beaucoup de nouveaux auteurs, donc souvent on commence par là. Et je pense que j'étais très intéressée par les blogs que je suivais beaucoup, mais j'avais très peur de parler de moi. Donc je me suis un peu planquée derrière un personnage, un alter ego avec des petites moustaches, pour parler des lectures que je faisais. Et il s'avérait que je lisais pas mal de revues scientifiques et comme j'ai tendance à vouloir dire à tout le monde « Oh, faut savoir qu'on fait ça, qu'on fait ci. » J'étale un peu ma science, mais de manière sympa, c'est-à-dire je veux pas que ça surplombe en disant « Vous savez rien. » Non, juste vraiment comme un pote, quand on a lu un article et qu'on fait « Tu te rends compte, j'ai vu que machin. » Voilà, c'était ça le but. Et après, ouais, ça a décollé.
Donc, c'était quasiment quelque chose à côté, en fait, que tu as fait?
Mais c'était carrément à côté. C'était au début, je l'avais même mis en privé et je l'avais envoyé avec des copains en me disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et je peux pas le mettre en public. J'avais super peur de montrer, d'avoir des commentaires. Non, mais je passais toujours par un éditeur pour montrer mon travail. Il y avait toujours le filtre de l'éditeur, mais là, c'était brut de pomme. Ça passait devant les gens, c'était presque instantané. Et surtout, les premiers, je suis allée les revoir et je fais « Waouh !» C'était vraiment, je tâtonnais, quoi. Des fois, c'était des petits gags pas très longs. C'était pas très pensé, en fait. Après, ça a pris forme. Mais c'était un peu la cour de récré, vraiment, à côté de ce que je faisais, où il fallait pas non plus faire n'importe quoi, surtout en jeunesse. C'est assez cadré. Vous faites pas exploser les gens en salle de classe, en fait. C'est pas trop. Et là, c'était un peu la... C'était le... Je pense que si j'avais dû proposer ça directement à un éditeur, j'y serais pas allé aussi, franchement. C'est l'aspect libre, enfin, accès direct au lecteur, ou c'était vraiment le défouloir, quoi.
Alors, professeur Moustache, professeur Cyclope, professeur Chomsky, C'est quoi ce gimmick? Tu gardes un souvenir de tes profs de sciences ou alors c'est le plaisir d'étaler ta science?
Le prof Cyclope, c'est pas de moi. C'est un collectif que je rejoins. Alors c'est pas moi qui crée. Là. Mais oui, il y a... Oh, on se prend sérieux. Je sais pas. Peut-être que c'est surtout le côté prof qui nous plaît. Ouais, Choubsky, c'était un personnage que j'avais fait. Je pense que c'est les prémices vraiment de prendre un scientifique et de la play prof. Mais je pense que j'ai beaucoup d'influence digérée de Léonard le génie, le côté un peu scientifique fou et un peu le scientifique de Dr. Slump aussi. Il y a un peu du Dr. Slump dedans. Donc c'est des trucs un peu digérés qui reviennent, c'est des figures qui reviennent et ouais, prof. Bon. Autant se la péter, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans la fiction, autant y aller carrément et s'attribuer le titre de prof.
Et alors, on a dû te poser la question 1000 fois, voire 10 000 fois. C'est quoi qui est venu en premier, l'amour de la science, l'amour du dessin, et puis comment t'as fait pour fusionner? Moi, la question que j'ai te poser, c'est au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Est-ce que tu voulais pas faire du cirque ou être policier?
Ah, mais c'est marrant. En fait, c'était très flou entre ce qu'on. Ce que les parents projettent sur vous, ce que la société attend de vous, ce que vous savez des métiers quand vous êtes enfant. Parce que moi, je me souviens, j'avais lu dans le magazine Mickey, une fois, mais ado, hein, une lectrice qui disait « J'aimerais être illustratrice plus tard. » Je me offre, hein. Ah ouais, on peut en faire son métier de dessiner. Ce qui est bizarre, parce qu'il y a forcément les gens qui dessinaient Mickey et tout, mais de là, est-ce qu'une... Mais peut-être aussi que ce soit une jeune fille qui le demande, ça me faisait bizarre. Et ça, c'était pas du tout dans l'esprit de ma famille. Par contre, il fallait un métier sérieux qu'on fait toute sa vie et surtout se protéger du chômage. Donc, c'est pas très clair. Je suis toujours fascinée par les artistes qui disent moi, à 10 ans, j'ai su que je voulais faire ça. Je tâtonnais, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien le sport aussi. Par exemple, on était obligé de faire du sport, donc il y a des rapports aussi au mouvement. Peut-être, j'aime bien les personnages qui sont énergie quoi, qui bougent. Et j'aimais bien la science. J'aimais bien la biologie, moi, au collège, parce que c'était la seule classe qui était fun. Il y avait des animaux et tout. Mais en fait, il y a plusieurs choses. J'ai l'impression d'aimer plusieurs choses et de. J'ai un peu un problème, parce que je pense que je suis surtout curieuse et puis. Et j'ai juste trouvé le moyen de raccorder de cordes in extremis. Mais j'aime bien bricoler aussi. J'aime bien faire du. Scier des trucs. Donc voilà, mais j'en fais pas mon métier, mais je crois que c'est vraiment du bricolage. Ouais.
Ouais, t'es une touche à tout, enfin t'es curieuse quoi.
Ouais, je crois que je suis curieuse, j'aime bien comment les trucs marchent, j'aime bien le faire moi-même, apprendre à faire des trucs, et j'aime bien mettre un peu les doigts dans le cambouis, ouais. Manuel.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant qui a eu l'idée de mêler justement. Pédagogie, c'est même pas de la pédagogie scientifique, c'est vraiment c'est creuser un sujet en termes de science et puis le mettre sous forme de dessin tout en rigolant, quoi. Que ce en soit BD... pas un bouquin qu'on retrouve dans une classe, tu vois.
Ah, en BD, bah, moi je pense un peu à Gottlieb, mais c'était plus. Je pense qu'il était moins.
C'est plus de référence, en fait.
Ouais, c'était peut-être scientifiquement un petit peu plus barré. Je suis pas sûre qu'il avait lu des thèses sur les cigognes avant de parler des cigognes. Mais je pense que ça devait exister, mais c'était peut-être plus institutionnalisé. Ouais, j'ai peut-être un côté irrévérencieux où je suis. De toute façon, au début, j'allais pas voir les chercheurs, donc j'avais pas de compte à leur rendre. C'est après, quand ça a commencé à être connu, que je me suis dit, bah, faut pas que je dise n'importe quoi si maintenant, en plus, des chercheurs viennent me voir. Il y a une petite responsabilité de pas dire. Enfin, voilà, il faut. Ouais, j'ai senti une petite responsabilité, pas non plus. De juste surtout pas dire trop de bêtises en fait, enfin de sciemment une grosse et encore moins des infos fausses. Il faut qu'on voit que je fais ce que je peux en mettant des bibliographies, en reconnaissant que je suis pas que qu'on se marre, mais qu'il y a une base. Mais
ouais, d'ailleurs, dans un des sketchs de ton dernier album du professeur Moustache, il y a un sketch où à un moment donné tu fais je comprends pas ce qu'on me dit, ou alors je sais pas le représenter par le dessin.
Ah,
parce
oui.
Que tout n'est pas représentable, surtout dans la physique quantique, enfin des sciences un peu dures, quoi.
Oui, oui, j'ai beaucoup de propositions d'astrophysiciens. J'ai même un astrophysicien que j'aime bien, d'ailleurs, qui m'a aidé, Laurent Chemin. Des fois, il m'écrit et il me fait, faudrait que t'expliques. L'intrication quantique, je... Oh. Mais parce que c'est plus difficile, il faut moi que je révise, parce que dès que c'est... moi, quand c'est visuel, quand c'est vraiment une table décroissant du pain en maths, c'est, quand c'est visible, j'y arrive. Quand c'est, même, c'est comme la génétique, j'aime bien, mais il faut souvent rappeler aux gens, c'est pas évident pour tout le monde, où sont les gènes, quoi, les chromosomes, allèles, etc. Donc, c'est pas comme quand je vous parle d'un rhume où chacun a un corps, hein, c'est ce que c'est. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un génome, même je confonds tout. Donc ouais, j'y vais carrément en disant je comprends rien. J'ai mis des vrais extraits. À la fin, il y a, je spoile pas, mais il y a un personnage, un physicien qui dit oh, faudrait plus tard qu'on étudie ça. C'est le copier-coller de l'astrophysicien qui me dit mais ce qui sera génial, c'est qu'on arrivera à faire un truc quantique. Et j'ai copié-collé son mail. Et c'est vraiment ce qu'il m'écrit. Donc ouais, des fois c'est dur. J'ai un peu mal aux cheveux.
Et justement, alors, parce que c'est comme des sketchs finalement. Alors, c'est des longs sketchs. Hein. C'est quand même des. Ouais. Tu développes une idée sur plusieurs pages. C'est souvent ce que tu as fait. Alors, c'est vrai que sur le blog, c'était beaucoup plus court. Mais ouais. Là, dans les BD, tu as pu plus développer. Alors, comment en fait tu. Est-ce que tu pars du sujet scientifique? Tu dis, tiens, je suis curieuse, j'ai envie de savoir ça. Ou alors, est-ce que à un moment, tu as une idée de gag et tu dis, tiens, je le mettrais bien dans un sujet scientifique parce que j'ai envie de mettre le gag. C'est l'œuf ou la poule?
Alors, des fois, il y a vraiment l'œuf. Où je dis, sur Instagram, j'ai fait un truc sur comment voient les araignées. Et quand j'ai lu l'article, je lisais un livre d'éthologie de Ed Young, là, qui s'appelle Un monde immense, où il explique comment les animaux perçoivent, voient, par exemple. Et il décrivait comment une araignée voit à peu près, vous voit, enfin, on est des grosses montagnes pour eux, voient pas très bien. Et je me suis dit, et là j'ai un truc qui fait oh là là, ça va plaire aux arachnophobes, on va bien se moquer des arachnophobes parce qu'il y en a plein. Donc il y a ça, soit ça en me disant je vais me les faire et je m'inclus dedans, soit des fois je lis juste des articles et je pioche, enfin je cherche et je tire sur la ficelle. Une fois j'ai trouvé un article d'un gars qui c'est incroyable, il y a des maquettes. Il étudiait les cils des yeux. Donc en fait, il pensait que les cils permettaient de faire barrage aux poussières. C'est plus compliqué que ça, ça fait un flux de vent qui fait que les poussières se dévient au-dessus de votre tête en fait. Et il a essayé avec du mascara pour. Et il y a des dessins et tout. Je fais, oh là là. Et après, de fil en aiguille, on allait super loin. Enfin. Et ça va jusqu'aux insectes, ce qu'ils font si une mouche se retrouve dans la colle. Enfin, on peut aller très loin. Et ça, j'adore. C'est le genre d'article où j'étais vraiment pas partie pour trouver ça fun sur le papier. Mais il y a des trucs qu'on peut tirer sans fin. Et puis, il y a des questions que je me pose moi-même quand je regarde un film ou que je lis un livre où je me dis dans ce film-là. Bah, j'ai vu un film récemment où c'est un astronaute qui décide de sortir alors qu'il y a un vent solaire, une éruption solaire. Et je me dis, mais elle devrait vomir dans sa combinaison. Là, j'ai recherché comment les irradiations et tout. Donc voilà, c'est des questions que je me pose tordues. Mais et des fois, il y a des gens qui me posent des questions. Et parfois, c'est des scientifiques qui m'encouragent. J'ai un ami virologue qui régulièrement me dit « Bon, faut qu'on attaque le Covid. » Et là, je fais « Oh non !» Et il y arrive, hein. Il y arrive. Ouais. Et il tient bon. Et là, après, il fait « Bon, c'est CRISPR-Cas9. » Et je fais « Oh non !» Eh ben, si, il y arrive. Et il est super, parce que c'est un très bon vulgarologue. Vulgarologue vulgarisateur.
Bah, c'est pas mal, ça, vulgarologue, virologue. Et d'ailleurs, est-ce que t'as des, entre guillemets, des regrets en se disant, bah, voilà, le professeur Moustache date d'un certain temps, les théories scientifiques évoluent. Est-ce que t'en as certaines où c'est incomplet, j'imagine, ça, ou carrément pas trop vrai, quoi.
Mais carrément, il y en a certaines, ça a changé. Je me suis demandé ce que j'en faisais.
Est-ce qu'il faut déchirer les pages?
Ou faire une sorte d'erratum. Non, mais par exemple, je me souviens, il y avait un truc sur le cerveau féminin et masculin. Il y avait eu un livre qui était sorti sur le cerveau féminin. Je l'avais lu, je l'avais acheté. Je crois que j'avais fait une note, je sais plus quand c'est, mais je suis pas sûre de l'avoir. Je sais plus. Et après coup, j'ai vu qu'on en reparlait de ce livre et je me suis dit, ah non, mince. mais après, je trouve ça intéressant. C'est inévitable en science que ça arrive. Pareil, Ouais, y a et même des vieux gags artistiquement, il y a des trucs je le referai plus, des gags que je trouve un peu nuls, un peu trop faciles, un peu trop clichés, qui se marrent pas sur les bonnes choses parce qu'on évolue aussi. Et puis moi je fais des progrès. Non mais c'est vrai, ou des trucs qui faisaient rire en 2000 font plus rire maintenant, et même moi je regarde, je fais mais c'est trop facile, enfin c'est de la fainéantise. Mais c'est bien, ça veut dire que je fais des, si je m'auto-complaisais en faisant oh, c'est toujours excellent. Ouais, enfin voilà, non mais et oui, c'est arrivé. Et il y a même un scientifique qui m'avait fait refaire, qui m'avait invité dans son labo pour refaire un truc, et j'avais fait un erratum, ouais. Mais je peux pas le faire en tous parce que je pense qu'on le ferait non-stop. Et je suis une feignasse. Non, je suis pas une feignasse. Mais ouais.
Alors, t'es ici invité aux Utopiales pour le côté scientifique, parce que les Utopiales ont vraiment une ADN scientifique, mais aussi pour le côté imaginaire, science-fiction, parce que bah, t'as beaucoup de références de pop culture, enfin même, t'as, je veux dire, c'est systématique, t'as des références de pop culture dans tes gags, et particulièrement avec le cinéma de genre américain, je trouve. C'est quoi ton rapport aujourd'hui avec l'imaginaire, la SF, la fantasy
Eh ben, ce matin j'ai eu une conférence avec des pointures et je me suis sentie un peu non, j'ai un peu de retard. Non, j'ai vraiment de la sympathie parce que moi je vois ça comme un entraînement cérébral à ce qui pourrait arriver. Après, bon, moi ça m'a beaucoup touché à adolescente ou jeune adulte, ces films-là américains. Mais en plus, bon, ça va faire vieille, mais j'avais la chance d'avoir Canal Plus et on l'attendait le mardi soir, le film. Bon, je regardais, voilà, c'était le film qu'il fallait voir, qu'on attendait au cinéma. Et donc, c'était des films chocs. Mais aujourd'hui, j'aime plus la SF, pas intello, mais psychologique. Moins bourrin, et j'aime bien, moi c'est Under the Skin qui m'avait, mais de Jonathan, enfin qui a été adapté du livre Jonathan Fraser, je crois, et le livre est encore plus ouf. C'est le rapport à comme premier contact, à comment voit le monde un extraterrestre, comment le comprendre et comment communiquer. Et je trouve que c'est la même chose un peu que ce qui se passe en éthologie, où les gens prennent un chien, un chat, une vache, et on dit c'est quoi son univers, comment il perçoit le monde. Et c'est passionnant. Et en fait, on va chercher des histoires de SF avec des extraterrestres, mais on les a aujourd'hui, quoi. Vous prenez un céphalopode, il y a des trucs de maboule qui sont faits. On pense que le poulpe, lui, il n'a pas... Pardon, je pars dans tous les sens. Non, mais je suis en train de dire du là-dessus. Quand on lui coupe un bras, il n'a pas que mal à la patte. En fait, il a mal à tout le corps, parce qu'il y a des études comme ça. Tout son corps, lui, est douleur. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps comme ça, et comment vous percevez le monde? Et c'est cette SF-là, plus psychologique, plus que les gros trucs genre Fondation, je l'ai vu, c'est trop, quoi, c'est trop long, c'est trop, ça dure trop longtemps sur trop de planètes. Il y a le plop Asgard et machin, et je préfère un peu le mindfuck à Under the Skin. Il faut lire le livre,
pour les hommes qui écouteraient, c'est s'ils vont voir de Scarlett Johansson un petit peu nu quand même dans ce film aussi, hein, donc,
oh bah bravo, ouais, vive la France.
Bah voilà,
elle est pas nue. Ah si,
à la
ah,
fin
si,
peut-être si.
Non, oui,
elle absorbe les gens. Ah bah bravo, on va pas tout raconter, il faut découvrir.
C'est une extraterrestre, voilà. Ouais, ah bah d'accord, ok.
Et alors, est-ce que tu lis aussi des romans de...
Beaucoup, ouais. En fait, j'essaie toujours de lire un roman scientifique et un essai et des romans. Ouais. Mais en ce moment, je lis un roman de SF, mais j'aime pas trop. Je peux en
parler. On a le droit d'abandonner les livres qu'on n'a pas envie de lire. Donc en fait, tu viens d'en parler avec le poulpe. En fait, est-ce que finalement la science, la nature, ça a pas plus d'imagination que nos romans et nos films?
Waouh, est-ce que c'est deux choses quantifiables? Je pense que c'est pas la même chose, mais la nature, vous prenez un cerveau, je pense que vous en avez pour 250 ans de SF, ouais. En tout cas, en inspiration, Déjà, la nature inspire la science et la science inspire la SF. Si, si, on ne comprend toujours pas, c'est un puissant fond d'incompréhension et de mystère. Si, si on l'avait compris, je pense qu'on n'aurait plus rien à faire. Enfin, non, je sais. C'est. Est-ce que c'est quoi la question? Si c'est mieux, s'il y a plus de.
En fait, la question plus précisément, c'est est-ce que finalement, c'est, on n'est pas plus surpris en étudiant la science, enfin la nature, la réalité, les théories. Enfin, est-ce que c'est pas plus.
Je crois que c'est deux choses différentes. Il y en a une, c'est vrai. Enfin, normalement, l'étude de la nature, c'est comprendre la vérité. Et je pense que la SF, c'est plus. Et c'est comme un peu comme l'humanité faisait des rêves étranges et essayait d'imaginer le pire, qu'est-ce qui et après qu'on fait mais qu'est-ce que c'est que ce rêve que j'ai fait et que j'avais pas trop de il y avait des pistes. C'est comme une sorte de psychanalyse de ce qu'on est en train de bidouiller nous les humains et si on allait jusqu'au bout de ça et si on c'est pour nous comprendre nous-mêmes, on essaie de faire différent possible, mais c'est pas forcément utile comme les rêves, ça n'a pas forcément de sens tout de suite. Il y en aura plus tard. Je pense que Orwell maintenant a beaucoup de sens, la nouvelle langue de la science a du sens et ça nous donne des éléments de langage, mais ouais, c'est, je vois plus comme une sorte de psychanalyse où on tente des trucs de réflexion ou de rêve et ouais.
C'est un peu ce que tu montres, parce que tu te mets un peu en scène dans Nos mondes perdus, et ça commence comme ça, en disant, je regarde Jurassic Park, et ça me fait exploser le cerveau avec plein de questions philosophiques. J'aurais jamais cru que Jurassic Park pouvait faire ça, en fait.
Ouais, enfin, c'est un peu romancé. C'est un peu après coup, que ça pose. Non, mais si, finalement, ça pose la question de, et si on vivait en même temps? Non, mais si, c'est quand même, pour l'humain, c'est quand même, terrifiant de se dire que avant lui il a existé des animaux qui vivaient sans lui donc on a une histoire avant l'histoire et s'ils ont disparu pourquoi pas nous donc si je pense que ça nous angoisse beaucoup et c'est comme des fantômes en fait finalement les dinosaures qui renaissent c'est des morts vivants en vérité c'est nos ancêtres qui viennent nous hanter et ouais, et puis ça pose. Bon, après, j'ai un peu romancié. Peut-être que je me le formulais pas trop comme ça à 14 ans. Ça, c'est plus les effets spéciaux qui m'ont d'abord défoncé la tête et ensuite la réflexion. Mais si, ça pose plein de trucs. Et je pensais pas en creusant, en faisant le livre, que ça soulèverait encore plus de questions comme ça. Ces enfants.
Alors aussi, on a vu que t'avais quand même. T'aimes bien dessiner des choses un peu trash, voire très trash.
Ouais.
Je pense que c'est quelque chose que faire ça se sent, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que tu vas préparer une BD gore pour Halloween 2025 ou est-ce que t'as d'autres projets?
J'avais même pas pensé à ça. Penser les BD selon les fêtes commerciales. Ah oui, remarque. Bah déjà, je sais même pas très bien ce qu'on fait à Halloween. Je sais même pas. J'aime pas les bonbons, donc c'est mal pareil. La rabat-joie. Non, j'aimerais bien. Sur Le Monde Perdu, j'ai un peu tenté à tremper le pied dans l'autobiographie. C'est un truc que j'avais un peu peur de faire. Et je pense que j'ai un peu moins peur parce que je me rends compte que c'est les parties certains qu'ils ont préféré. Non, et puis je me rends compte maintenant que après la combi de Thomas Pesquet, je vois qu'on me considère comme une autrice qui posait, qui a fait son truc, qui est un peu costaud, qui a côtoyé des astronautes, donc c'est bon. Mais en fait, faudrait que je maîtrise rien du tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Je vais côtoyer un milieu d'astronautes en me faisant toute petite. Et donc peut-être que j'aimerais bien raconter ça, comment je me débrouille dans les labos avec ce complexe de bonjour, j'ai bac plus 2, je suis au milieu d'hommes, je mesure 1m50 et 48 kilos, mais pas de problème, je vais tirer à l'arme à feu avec des flics. Et des fois je me dis, mais comment je me suis retrouvée dans des situations qui suis très anxieuse, mais vraiment, je me soigne, hein, mais j'ai l'impression de justement lutter contre, et si ça peut aider des jeunes qui manquent de confiance, parce que moi j'étais vraiment pas partie pour faire ce métier. Je dis pas vas-y, on peut tous faire de la BD et squatter des astronautes. Mais juste, faut pas non plus imaginer, pas mettre sur un piédestal juste des gens. Enfin, comment dire. Je vois ce que ça fait, même sur Thomas Pesquet, c'est rigolo parce que moi je l'ai connu avant qu'il soit célèbre. Je dis pas qu'on est intime, mais c'est très marrant de voir le statut des gens qui changent juste après un truc un peu exceptionnel, et c'est assez drôle, enfin absurde.
Ouais, je crois, en fait, tu le montres hein, comme il est Thomas Pesquet, tu montres que c'est un humain comme les autres, parce que non, il est supérieur à la moyenne, mais c'est pas pour ça
sur
que c'est pas compliqué, quoi.
C'est très compliqué, et c'est surtout comment. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment aussi ils répondent au rôle qu'on leur demande. C'est-à-dire quand quelqu'un, tout le monde vous aborde comme si vous étiez un héros ou un super héros. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation de l'être, de se comporter comme ça, tout comme moi, je dois me comporter comme une artiste. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment des questions. C'est vraiment bizarre la médiatisation pour l'avoir vu. Je dis pas que je vais pas dire oh, c'est nul, ça sert à rien, mais c'est un drôle de manège en fait. C'est un drôle de truc qui. Et puis surtout, je reviendrai bien sur des trucs un peu cocasses. Oui, je me suis retrouvée avec un magnum dans les mains, alors que je fais à quoi ça sert? Avec des flics, ouais. Et que je joue la vérité en disant non, bah, pas de problème, Fifi, je tire là-dedans, alors qu'en vérité, je déteste ça. C'est plein de trucs mais c'est un rapport de violence symbolique, des choses comme ça, ou d'anxiété, de création. Enfin, je veux dire, je ne devrais pas. Pour le job, je le fais, mais en vérité, je pense que je suis morte de trouille. Beaucoup de gens sont morts de trouille, je pense, dans la vie, et se forcent, mais on est tous au même niveau. Voilà.
Bon, ça arrive à la fin, et là, ça passe très vite. Trois questions, portrait chinois. Et si, alors, et si t'étais un dinosaure ?
Oh, je serais un petit truc, mais fourbe. Ah non, pas un gros machin. Il y en a beaucoup qui sont petits. Hein. Il paraît que là, ils étudient vraiment. La plupart des dinosaures étaient moins grands qu'un chien. Donc, je pense que je serais une sorte d'ancêtre. Non, ça, c'est les mammifères. De la poule, mais loin, loin, loin. avant les vélociraptors, quand ils étaient tout petits. Ouais, je sais pas. Ou un herbivore pépouze.
Le truc, justement, avec les éléphants, là, dans Jurassic Park. Ah ouais. Les catacombes.
Il paraît qu'il crachait pas non plus de la glu, comme ça. Non, ou un bon vieux pépère, là, ceux qui. Ah, comment ça s'appelle? Qui sont au bord de l'eau, là.
Diplodocus.
Non, j'aime bien l'iguanodon, mais représenté par les vieux auteurs quand ils ont leur. Qui sont un peu en kangourou avec leur bec de canard là. J'aime bien leur bouille comme ça.
Si t'étais une théorie scientifique.
théorie du chaos. Allez, bam. Débrouillez-vous avec ça.
Et si tu n'étais pas Marion Montaigne, quelle dessinatrice ou dessinateur tu serais?
Scarlett Johansson. Non. Quel dessinateur ou dessinatrice je serais? Oh, faut pas que je cite un collègue, attends, ou une collègue.
Ou quelqu'un de mort, c'est plus facile. C'est que tu vexes personne.
Non, mais. J'aimerais bien savoir. Comme Goussens, en fait. Savoir dessiner les bébés comme Goussens. Voilà. Ils dessinent super bien, les bébés, ils sont super drôles.
Alors, quelle musique veux-tu qu'on passe après cette interview?
Aaron comment ça s'appelle, Onisis, c'est la musique que j'écoutais beaucoup en faisant la combi de Thomas Pesquet. Dès que je l'entends, je sais plus si c'est Onisis ou mais c'est le Aaron, vous voyez.
Non, mais on le trouvera.
Vous devriez retrouver. Et je l'écoutais beaucoup en le faisant, je sais pas pourquoi. Donc maintenant, dès que je l'entends, boum, je me vois en train de faire mes propres du ancré mon. Cet album-là.
Merci Marion.
Oh, c'est
vide. Au revoir.
Daron, c'est le choix de Marion Montaigne et c'était le même que dans l'interview qu'on avait fait de Marion en 2019. Donc, je suis passé à une version live là pour changer un peu. Mais on a quelques trucs à vous annoncer avant la fin de cette émission. Patrice, rendez-vous à l'ex-collégiale Saint-Martin dans le cadre de l'Expo Profondeur.
On commande profondeur à l'esthétisme liquide, on pourrait dire.
Ouais, tout à fait.
C'est très beau. Et il y a une conférence pop culture. Le 6 décembre à la collégiale. Alors, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire quand même sur leur site. Ça va tourner autour de l'eau et d'Avatar. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas l'affiche sous les yeux du nom du
Avatar
scientifique.
Avatar 2, il me semble.
Oui, Avatar 2, oui. Mais c'est un scientifique spécialiste de l'eau qui doit venir.
Ouais. Et puis, la soirée des 50 ans du jeu de rôle hein, à la bibliothèque de Belleveil, ça c'est vendredi soir. Est-ce que tu viens chanter avec moi, Patrice? Bon. On propose, il y a une dizaine de tables qui sont proposées et imaginaire, nous on a déjà deux tables qui sont complètes à 18h30, mais vous pouvez toujours venir jouer à 20h30 à ce jeu où on doit chanter en jouant, que j'ai rebaptisé Escape from New York, New York. Et donc on retrouve Patrice Véry, mais en tant qu'écrivain, pour parler de son dernier roman.
Bah, c'est tout au moins Sébastien Aguerri.
Voilà, dans deux semaines, dans Imaginaire sur le 101.5. Salut! FM.